Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire belge vraiment pas banale. Un meurtre commis par le sabotage d'un parachute. Ça se passe en 2006 et la victime est une jeune femme du nom d'Else Van Doren. Qui l'a tuée? Je vous préviens, vous serez très surpris par la réponse. Pour le débrief, je ferai appel à l'avocat belge Pierre Chaumet. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La première scène de cette histoire semble venir tout droit d'un film d'horreur. Un midi de novembre 2006, à Opglabek, une petite ville de Belgique flamande, tout près de la frontière avec la Hollande, une femme est en train d'étendre son linge dans son jardin. Et d'un coup, elle entend un gros bruit, pas un boum, pas un pan, plutôt une sorte de floc, le bruit d'un truc qui s'écrase. Et d'ailleurs, elle a senti la terre résonner sous ses pieds. Ça vient du fond du jardin. Alors elle y court, et là, elle voit un grand morceau de tissu blanc, une sorte de grand drap. Elle s'approche encore. Nom de Dieu! Il y a une jambe qui dépasse. Et c'est pas un drap. C'est une toile de parachute. Il y a un petit aérodrome juste à côté. Des parachutistes ont l'habitude de s'y entraîner. Ça doit venir de là. Elle soulève la toile. Accrochée au parachute, il y a une femme. Un filet de sang coule de ses lèvres. Honnêtement, elle semble morte. Mais elle se dit que peut-être on peut encore la sauver. Alors elle appelle les pompiers et les gendarmes. Ils arrivent sur place quelques minutes plus tard. Ils tentent un massage cardiaque, mais on va pas se mentir. Elle est morte. Et là, les gendarmes et les pompiers sont encore dans le jardin. Un type arrive, un costaud en combinaison de parachutiste. Il s'approche de la femme. Il a l'air complètement secoué. Un gendarme va vers lui. « Bonjour, monsieur. Vous connaissez cette personne ?»« Oui. Je la connaissais bien, hein, en effet. C'est terrible. Terrible. Elle avait fait plus de 2000 sauts. C'était une parachutiste très expérimentée. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment s'appelait cette jeune femme, monsieur? Else. Else Van Doren. Et vous-même, monsieur, vous êtes Marcel Sommers. Je fais partie de la petite équipe d'amis qui a sauté avec elle. Vous pouvez m'expliquer rapidement ce qui s'est passé? Je sais pas. On était quatre amis. On était à 4000 mètres. On a sauté l'un après l'autre. Les conditions étaient excellentes. On avait prévu de faire une étoile tous les quatre, vous savez. Une figure où on se tient les mains. Mais finalement, on l'a faite à trois. Paul, Else Van Doren et moi. La quatrième, Else Klotmans, a sauté trop tard de l'avion. Elle n'était pas à notre hauteur au moment de la figure. Donc on l'a faite à trois. Et puis, on est arrivé vers 1000 mètres. Et là, tous les trois, on a déclenché notre parachute. Et là, on a tout de suite vu qu'Else Van Doren n'arrivait pas à déclencher. Elle était en chute libre. Et on la voyait essayer d'ouvrir son parachute. Elle n'y arrivait pas. Et on l'a vu s'écraser dans ce jardin. Et voilà, le temps d'atterrir. Je suis venu directement. Imaginez la chute de cette femme. 85 mètres par seconde. Et elle qui voit le sol s'approcher. Un cauchemar. À ce stade de l'histoire, petite mise au point technique. Perso, je n'y connais strictement rien en parachute. Mais je me suis rencardé. Ça arrive qu'une toile ne s'ouvre pas. Pas tous les jours, mais ça arrive. Sauf qu'en principe, il y a une toile de secours. Pour la déclencher, il y a juste une ficelle à tirer. Ça marche à tous les coups. Et là, ça n'a pas non plus fonctionné. Pourquoi ? Pourquoi ? Els van Doren était bijoutière, mariée, deux enfants. Est-ce qu'elle a voulu se suicider ? Ça s'est déjà vu chez les parachutistes. Ou alors quelqu'un a saboté son parachute pour la tuer. En tout cas, c'est la section criminelle de la police judiciaire d'Hasselt qui prend l'enquête en main. Les policiers demandent à un spécialiste de la base de parachutisme voisine de venir immédiatement sur place. Et son constat est sans appel. Ça ressemble bien à un sabotage. Regardez cette sangle. Elle a été clairement sectionnée. Nette. Vous voulez dire un acte volontaire ? Ben, je vois pas vraiment comment autrement. Regardez là. Il y a un autre problème, hein. Il n'y a pas d'extracteur. Et l'extracteur, c'est une pièce capitale pour déclencher le parachute. L'extracteur devrait être là. Il n'y est pas. Ça, à mon avis, ça explique tout. Parce que sans cette pièce, le parachute ne peut pas se déployer. Il ne peut pas. Tout ça, messieurs, je vous le dis franchement, ça ressemble vraiment à un sabotage. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Els van Doren portait une caméra arrimée à son casque. C'est très courant dans le parachutisme, mais pas que. Ça sert évidemment à garder un souvenir de son saut et aussi à améliorer sa technique. Et cette caméra, elle est toujours là, accrochée au casque d'Els. On peut imaginer qu'elle a enregistré toute la chute, d'un bout à l'autre. Alors venez avec moi assister au visionnage avec les policiers belges. La caméra a été enclenchée à bord de l'avion juste avant le saut. Et on y voit Els van Doren filmer ses coéquipiers. L'ambiance est joyeuse. Ils sont trois sur les images. Marcel Sommers, qu'on a vu tout à l'heure dans le jardin. Un certain Tom Bolsius. Et une autre Els Klotmans, que la bande surnomme Babs. C'est la plus jeune. Elle a 21 ans. Donc là, tu vois, on a le déclenchement du saut. Ils sautent un par un. Et on voit très bien qu'Els Klotmans, l'autre Els, saute un peu en retard. Et là, on voit bien qu'effectivement, du coup, elle ne peut pas participer à l'étoile. Là, tu vois, on voit que Bolsius, Sommers et Klotmans déclenchent leur parachute. Et là, regarde, on voit bien qu'Els van Doren essaye de déclencher le sien, qu'elle n'y arrive pas. Elle regarde en l'air. Hein. On voit clairement qu'elle réalise que quelque chose ne va pas. Et on voit bien, regarde, qu'elle tente de tirer là, sur son parachute de réserve. Et là, on la voit vraiment commencer à paniquer. Mais sur les images, elle ne crie pas. Elle ne pousse pas de jurons. Elle lutte jusqu'au bout. Et après le crash, les images deviennent noires. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais on voit bien que cette fille ne s'est pas suicidée. On voit clairement qu'elle fait de gros efforts jusqu'au bout pour tenter de déployer son parachute. C'est pas un suicide. Et c'est d'autant moins un suicide que les policiers découvrent qu'Els van Doren a renouvelé son abonnement au centre de parachutisme le matin même. Elle a acheté 100 sauts supplémentaires. Ce n'est pas vraiment le genre d'achat qu'on fait quand on veut mettre fin à ses jours. Et donc, si à coup sûr, ça n'est pas un suicide, eh bien, c'est un meurtre. Trois jours après le drame, on retrouve l'extracteur du parachute de Els. Et c'est la copine Babs qui l'aperçoit complètement par hasard, accrochée à un arbre sur la zone au-dessus de laquelle ils ont sauté le jour du drame. Il est accroché avec un bout de tissu rouge. On ne voit que ça. Les policiers sont immédiatement informés et ils viennent le décrocher. Regarde bien. C'est clair, hein? Il a été tranché, là. Un couteau, un ciseau, je sais pas, mais... Ça se confirme, hein? On a bien fait un sabotage. D'accord, mais comment ça se fait qu'on le retrouve là? Ben, on a dû le sectionner avant. Il s'est décroché pendant le saut. C'est la seule explication. Plus de doute. C'est un meurtre et même un assassinat. La préméditation ne fait aucun doute. Alors, qui a pu faire ça? Il faut une sacrée dose de sang-froid pour faire un truc pareil. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour saboter un parachute, faut savoir comment ça marche. Moi, j'y connais rien, par exemple. Je saurais pas saboter un parachute. Qui sait vraiment comment marche un parachute? Un parachutiste. Moi, je me dis qu'on devrait commencer par ça. Les gens du club. Et notamment ceux avec lesquels elle a sauté. Les policiers entendent d'abord le dénommé Tom Bolsius. Il dit qu'il connaissait très peu Else, et ça se vérifie. Il n'a donc aucun mobile pour la tuer. Deuxième à passer sur le grill, la fameuse Babs, celle qui a retrouvé l'extracteur. Elle est toute jeune, à peine 21 ans, et ce qu'elle révèle est très intéressant. On a dû vous dire qu'elle s'était mariée et qu'elle avait 2 enfants, n'est-ce pas? La vérité, je crois qu'il faut que vous le sachiez quand même, c'est qu'elle avait aussi un amant. Bien, intéressant. Et vous le connaissez, cet homme? Si je le connais. Eh ben oui. C'est Marcel. Marcel Sommers. Qui a sauté avec nous l'autre jour. Vous savez, elle passait jamais un week-end chez elle. Sous prétexte d'aller sauter en parachute. C'est Marcel qu'elle sautait. Si j'ose dire. Et son mari, il est au courant? Je crois pas, non. Ou alors il n'a pas voulu voir, de toute façon, au club personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. Et ça a duré depuis combien de temps cette relation? Je dirais 5 ans. Il y a donc une histoire de cul en toile de fond de ce drame. Ce qui ouvre 2 hypothèses. Soit c'est l'amant, Marcel Sommers, qui l'a tué, soit c'est le mari. Le mari qui aurait découvert tardivement le poteau rose et qui aurait voulu se venger. Le mari s'appelle Jean de Wilde. Et si on allait le voir, pour commencer? Il habite dans la banlieue d'Anvers. Voyons ce qu'il a dans le ventre. D'entrée, les policiers n'y vont pas par 4 chemins. Monsieur, je dois vous dire que selon les premiers éléments de l'enquête... Il ne semble pas que la mort de votre femme soit un accident. Nous pensons que c'est probablement un meurtre. On a saboté son parachute. Un meurtre? Mon Dieu, mais... Mais qui? Vous avez une piste? Saviez-vous, monsieur, que votre femme avait un amant? Pardon? Un amant? Elle serait un amant? Non. Je ne le savais pas. C'est qui? Marcel Sommers. Un parachutiste avec lequel elle sautait tous les week-ends. Vous voulez que je vous dise? C'est pas scientifique, hein, mais il a l'air sincère. Il donne l'impression qu'il ne savait pas. Ou alors il cache bien son jeu. Ah, messieurs, j'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Regardez. C'est une lettre qu'on a reçue avec elle au mois de janvier. Et là, le mari leur tend une feuille blanche, un courrier anonyme, avec 2 lignes, pas plus, écrites en flamand. Je vous traduis. Else, qu'es-tu en train de faire? Pense à ton mari et à tes enfants. Alors, rétrospectivement, on peut se dire que ce message a été envoyé pour révéler au mari qu'elle s'entretenait une relation avec Marcel Sommers. Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme, quand elle a lu ce message, monsieur de Wilde? Ah, elle m'a dit que ça faisait peut-être allusion au fait qu'elle consacrait trop de temps à sa passion, le parachutisme, et que la personne lui reprochait de délaisser son foyer. Et vous, ça vous a semblé une bonne explication? Bah oui, enfin je crois qu'elles étaient parfaitement conscientes que pas mal de personnes de notre entourage ne comprennent pas. Enfin, ne comprenaient pas qu'elle y passe tous ses week-ends. Ouais, on a quand même un peu de mal à croire qu'il ait gobé ça tout cru. Est-ce qu'il n'a pas plutôt découvert via cette lettre qu'elle le trompait? Est-ce que cette lettre n'a pas été le déclencheur d'une vengeance? Dites-moi, monsieur, vous-même, vous vous y connaissez en parachutisme? Si je m'y connais? Oh ben oui, j'en ai fait pendant longtemps. Donc, il est techniquement capable d'avoir saboté le parachute. Et votre femme, où stockait-elle son matériel? Ben ici, chez nous. Donc, il avait aussi parfaitement le moyen de saboter le parachute de sa femme. Monsieur de Wilde, si à un moment de l'enquête nous apprenons que vous étiez au courant de la liaison de votre femme avec Monsieur Sommers, nous vous placerons naturellement en détention, hein, donc vous n'avez pas intérêt à nous mentir. Vous comprenez ça? Ben, y a pas de risque. J'étais vraiment au courant de rien. Et les policiers reportent avec la lettre anonyme. À ce stade, le mari reste un suspect. Mais voyons ce que dit l'amant, Marcel Sommers. Les policiers débarquent chez lui un dimanche. Bien, monsieur, je dois vous dire que l'une de vos coéquipières, mademoiselle Else Klotmans, nous a révélé que vous étiez amant avec madame Van Doren. Est-ce qu'elle a menti? Ben non. Non, c'est vrai, on avait une relation. Ça a duré depuis des années. Mais ce que mademoiselle Klotmans ne semble pas vous avoir dit, c'est que j'avais aussi une relation avec elle. C'est même moi qui lui ai trouvé son surnom, Babs. Elles s'appelaient toutes les deux Els. C'était pour pas les confondre. Il a raison, hein. On doit tout faire pour ne jamais confondre ses maîtresses. Mais je tiens à dire une chose. Avec Els Van Doren, c'était vraiment du sérieux. Avec Babs, c'était pas pareil. Babs, c'était juste un petit coup de temps en temps. J'étais amoureux de Els. Mais pas du tout de Babs. Il est délicat, le garçon. C'est bouleversant. Mais Babs, comme vous l'appelez, elle a toujours su que vous étiez surtout amoureux d'Els Van Doren. Bien sûr. Et elle l'acceptait parfaitement. Même si maintenant qu'on parle de ça, je me dis que peut-être Babs nourrissait une forme de jalousie à l'égard d'Els Van Doren. Décidément, quel gros relou, celui-là. Il vient carrément de désigner Babs comme suspecte. Stratégie classique de celui qui veut détourner l'attention. Et oui, il sait que les policiers le suspectent, alors il leur donne un autre os à ronger. Il faut quand même que je vous raconte quelque chose qui s'est passé 8 jours avant le drame qui a emporté Els. C'était le dimanche juste avant, le soir. J'avais prévu de passer la soirée avec Babs. En général, c'est ce soir-là qu'on se voit, le dimanche. Et là, elle s'est débarquée. Elle a posé son parachute dans le salon. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée direct se mettre dans mon lit. Moi, je me suis dit que c'était une manière de marquer son territoire par rapport à Babs. Et Babs, du coup, ben, elle a dû dormir sur le canapé. Dans le salon. Et dans votre souvenir, elle avait l'air d'être en colère à cause de ça. Non. Mais comme avec Els, on a fait l'amour et que... Comment vous dire? Elle, c'était un peu le genre à grimper au rideau, vous voyez, enfin. Quand on faisait l'amour, elle n'était pas muette, quoi. Hein. Ça s'entendait. Et peut-être que Babs, ça l'a blessé, ça. Enfin, d'entendre tout ça depuis le canapé. Et elle vous en a parlé, de ça, le lendemain matin. Le lendemain matin, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est arrivée toute excitée dans notre chambre. Elle voulait faire un plan à trois. Je l'avais jamais vu comme ça. C'était comme une crise d'hystérie. Et ça a duré une bonne dizaine de minutes. Et puis quand elle a compris qu'il n'y aurait pas de suite, ben elle est sortie. En allant voir le mari, puis l'amant, les flics pensaient qu'ils avaient deux suspects. Ben maintenant, ils en ont trois. Le mari, qui ne savait pas qu'il était cocu depuis 5 ans, et qui, le découvrant, blessé, a très bien pu vouloir se venger. Ça reste une hypothèse. Mais entre nous, ça n'est pas l'hypothèse privilégiée. Quand ils sont allés le voir chez lui, il avait l'air sincèrement de tomber de l'arbre. Il ne savait pas que sa femme faisait youp-la-boum avec un autre. Deuxième hypothèse, l'amant parachutiste, Marcel. Avec cette limite qu'on ne voit pas bien quel serait son mobile. Il n'a pas saboté son parachute parce qu'elle ne voulait pas quitter son mari. Donc Marcel reste suspect, mais ça n'est pas le suspect principal. Vous l'avez compris à ce stade, le suspect principal, c'est Else Klotmans. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a menti aux policiers en omettant de dire que Marcel était aussi son amant. Et puis, parce qu'on voit bien le scénario qui s'est joué une semaine avant, au cours de cette nuit qu'elle a passée sur le canapé de Marcel. Elle est là, sous sa couette. Elle enrage que l'autre lui ait piqué sa place dans le plumard. Et maintenant, elle l'entend bramer comme un cerf. Ouh, ouh, et ça lui met les abeilles. Et elle se lève, le parachute de sa rivale est là, posé dans le salon. Et elle le sabote. 15 jours après la mort d'Else Van Doren, sa copine Babs est réentendue par la police. Vous nous avez menti, mademoiselle. Vous avez omis de nous dire que Marcel Sommer, c'était non seulement l'amant d'Else Van Doren, mais aussi le vôtre. Je ne vous l'ai pas dit parce que ça n'avait pas d'importance. Oui, je couchais avec Marcel, mais je savais que j'étais la numéro 2. Et pour être honnête, ça m'allait. Je faisais avec. Parce que, mademoiselle, il y a une hypothèse dans laquelle vous tuez mademoiselle Van Doren par jalousie. Mais non, je vous l'ai dit, j'étais pas jalouse. Alors qui, mademoiselle Klotmans, vous avez une idée? Son mari? Marcel? J'en sais rien, moi j'ai rien fait. Elle ne raconte pas exactement la même histoire que son copain Marcel. Lui semble dire qu'elle était jalouse. Et elle dit pas du tout. Qui dirait? La réponse tombe un mois après le drame, quand Else Klotmans fait une tentative de suicide. Sa mère la retrouve inanimée avec des boîtes de médoc à côté d'elle. Elle est hospitalisée, on lui fait un lavage d'estomac et elle en ressort indemne. Et forcément, on lui demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu mettre fin à ses jours? Hier soir, Marcel m'a appelé pour me dire qu'il voulait mettre fin à notre relation. Qu'elle était malsaine. Et puis qu'il avait plus de raison de vivre depuis la mort de Else. Il m'a même dit qu'il voulait arrêter le parachute. Et tout ça, moi, j'ai pas supporté. Tiens, tiens. Je croyais qu'elle n'était pas amoureuse de Marcel Sommers. Décidément, cette jeune femme ment. Et ce qui est bigrement intéressant, c'est qu'avant d'avaler les médocs, elle a envoyé des lettres à ses proches. Dont une à Marcel, qui, bien sûr, s'empresse de l'apporter aux policiers. Et dans ce courrier, elle révèle que c'est elle le corbeau, que c'est elle qui a envoyé la lettre anonyme. Or, entre-temps, cette lettre, les policiers belges l'ont analysée sous toutes les coutures. Aucune empreinte digitale, ni sur le papier, ni sur l'enveloppe, et pas non plus d'ADN. Comme si Babs avait utilisé des gants. Si, comme le pensent les policiers, c'est elle qui a saboté le parachute d'Els Van Doren, c'était donc prémédité. Ça se confirme. C'est un assassinat. Et voilà le scénario définitif que retiennent les policiers. Babs n'a pas supporté une semaine plus tôt qu'Els l'ait humilié en prenant sa place dans le plumain. Et qu'elle ait eu après l'indélicatesse de s'accrocher au lustre pendant leur partie de jambes en l'air. Alors elle se lève, elle est très en colère et elle sabote le parachute de sa rivale. Et le jour du drame, elle fait probablement exprès de sauter en retard. Elle veut voir la chute de sa rivale et repérer au passage où tombe l'extracteur pour pouvoir le retrouver après et laisser penser que c'est le mari qui a saboté le parachute. Voilà le scénario qui émerge de cette enquête. Mais tout ça, honnêtement, ça ne se nourrit que d'hypothèses. Les policiers n'ont pas le début de la queue d'une preuve. Quoi qu'il en soit, Els Klotmans file en prison. Bien conscient que le dossier est un peu faiblard pour la cour d'assises, le juge belge décide alors de faire quelque chose qui serait impensable en France. Les faire passer tous les trois au détecteur de mensonges. Jean de Wilde, le mari, s'y soumet le premier. « Monsieur de Wilde, avez-vous tué votre femme ?»«
Non, je ne l'ai pas tuée. »
Et la machine lui donne raison. Vient ensuite le tour de Marcel Sommers. « Monsieur Sommers, avez-vous tué Els Van Doren ?»«
Non, non, c'est pas moi. »
Et là encore, la machine confirme. Et maintenant, voyons comment ça se passe avec la suspecte, Els Klotmans, Babs. Eh bien, on le saura pas, parce que son avocat refuse qu'elle se soumette au test. Enfin, le détecteur de mensonges n'a aucune valeur devant la cour. Strictement aucune. Et par ailleurs, ma cliente est sous antidépresseur. Je suppose que cela pourrait fausser le test. Eh bien, tant pis. Le procès va donc se jouer sur l'intime conviction des jurés. Le procès débute en septembre 2010 devant la cour d'assises de Limbourg. L'affaire a fait la une des journaux depuis 4 ans. Et donc il y a un monde fou. Els Klotmans comparaît libre. Elle est sortie de prison depuis 1 an et demi. Et quand elle apparaît dans le box, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Visiblement, elle est sous médicaments. Elle a l'air épuisée. Elle est habillée comme un sac. Et elle s'est coiffée avec la poignée de la porte. La vidéo de la chute d'Els Van Doren, prise par sa caméra, est diffusée sur grand écran. Jean de Wilde, le mari et ses deux enfants ne supportent pas, ils quittent la salle. Le mari, qui vient ensuite raconter à la barre, une étonnante histoire. Els Klotmans a voulu lire un texte le jour de ses funérailles. Et moi, j'ai voulu le lire d'abord. Et c'était une horreur. Alors j'ai refusé. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte, monsieur de Wilde ? Eh bien, elle plaisantait sur la plaque d'immatriculation de la voiture de ma femme. Elle racontait qu'il était écrit 3 lettres, S-A-U, et qu'en allemand, ça voulait dire cochonne ou salope. Elle voulait dire ça aux obsèques. Moi, je pouvais pas la laisser dire ça. Le témoignage de Marcel Sommers, l'amant, est édifiant lui aussi. Vous savez ce que Babs a fait ? 2 jours après la mort de Els, elle a débarqué chez moi, elle s'est fichue direct à poil, Elle voulait qu'on ait une relation sexuelle tout de suite. Alors que franchement, moi, j'avais pas vraiment la tête à ça. Et puis on attend beaucoup de l'expert psychiatre. C'est incontestablement une jeune femme qui souffre d'un trouble de la personnalité. Disons qu'elle est égocentrée et incapable de ressentir les sentiments des autres. Le jury va se retirer pour délibérer. Else Klotman se lève et elle prononce ces mots.
En toute honnêteté, depuis 4 ans, je vis l'enfer. Je ne suis pas coupable. Je peux rien dire d'autre. Je l'ai pas fait. C'est pas moi.
Le verdict tombe. Else Klotman est reconnue coupable et elle est condamnée à 30 ans d'emprisonnement. Particularité belge, si elle veut sortir de prison, elle doit maintenant avouer les faits pour lesquels elle a été condamnée. Elle est libérable depuis 2019 et pour l'instant, elle a refusé d'avouer. Pour débriefer cette histoire, me voilà donc avec vous, Pierre Chaumet. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, vous enseignez aussi le droit pénal et parfois même, vous jouez les chroniqueurs judiciaires. Je précise d'ailleurs que vous n'êtes pas intervenu précisément dans ce dossier. Je dois dire qu'on a eu pas mal de mal à trouver un interlocuteur parce que tous les acteurs de ce dossier ne parlent que flamand et pas un mot de français. Le bilinguisme a encore du chemin à faire dans votre pays.
Ah oui, tout à fait. Donc je maîtrise très très mal cette seconde langue qui pourtant est indispensable dans mon métier normalement.
Alors premier commentaire, Monsieur Chaumet, sur la peine. 30 ans, c'est une peine très lourde pour un crime passionnel au fond. Et moi je croyais qu'en Belgique, contrairement à la France, on reconnaissait l'existence des crimes passionnels.
Oui, mais on a de toute façon une forme de réflexe que je qualifierais de judéo-chrétien. On veut bien de la pitié, c'est-à-dire une peine plus modérée, mais en échange de cela, il faut des aveux, donc il faut une reconnaissance des faits, ce qu'elle s'est toujours refusée à faire. Et d'ailleurs, pour sa libération conditionnelle, il n'y a pas d'obligation sur papier de reconnaître, mais le tribunal d'application des peines qui est en charge de libérer anticipativement les gens condamnés attend la plupart du temps une forme de repentir, et s'il n'y a pas eu d'aveu, que ces aveux arrivent maintenant.
Ah oui, donc c'est la même chose qu'en France. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'exprime pas de regret, Tintin, on reste en prison.
Oui, tout à fait. Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est une chance et une probabilité beaucoup plus forte que si tout à coup, on se remet en question.
Est-ce qu'au fond, Else Klotman ne paie pas le max par le caractère très spectaculaire de son crime? C'est-à-dire, spectaculaire et probablement très angoissant pour les jurés. On se met à la place de la victime dans cette chute. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a ce facteur-là qui joue, mais il y a, à mon sens, un autre facteur, c'est le facteur sophistiqué du crime. Hein, parce que vous pouvez très bien prendre un couteau et puis aller chez quelqu'un et l'assassiner. Ici, manifestement, ça implique une forme de réflexion et de recherche des éléments les plus efficaces pour que ce parachute donne l'impression de fonctionner et en réalité est saboté. Puisque la plupart du temps, les parachutistes sont des gens qui vérifient, bien évidemment, vu les conséquences potentielles, leur matériel jusqu'au dernier moment.
Mais là, elle n'avait pas de raison, puisque elle l'avait sans doute elle-même plié, rangé et préparé pour le prochain saut, et qu'elle ne pouvait pas imaginer que son ami Else Klotman était capable de le trafiquer.
Non, c'est clair, mais... En fait, vu de l'extérieur, puisque, comme vous l'avez dit, je n'étais pas acteur de cette procédure, mais j'ai toujours un petit regard d'expert en matière, vu de l'extérieur, on a un peu l'impression qu'elle a été condamnée par défaut de mieux. Parce qu'effectivement, elle a toujours nié, il y a des choses très embarrassantes que vous avez très justement remis sur le tapis lors de votre exposé, mais on n'a pas de certitude absolue.
C'est comme en France, hein. Le système est celui de l'intime conviction devant la cour d'assises.
Tout à fait, sauf que l'intime conviction n'est pas une forme de eureka ou de lumière magique. L'intime conviction, c'est en fait une résultante ou de preuves, ce qui n'est pas le cas ici, ou de présomption, c'est-à-dire une forme de faisceau de rayons lumineux qui vont tous dans la même direction et qui éclairent la coupable.
Tout de même, moi je me dis que si elle avait tué Els van Doren avec un revolver, qu'elle serait allée acheter la veille, ce qui constituerait la préméditation, ben, je suis convaincu qu'elle aurait pris moins de 30 ans.
Oui, j'en suis convaincu aussi. Moi, j'aurais imaginé, vu ma longue expérience d'assises, 15-20 ans, en considérant son jeune âge et le caractère très troublé de cette relation triangulaire.
C'est donc bien le caractère spectaculaire de cette chute vertigineuse qui fout la trouille à tout le monde, et moi le premier, et je pense à tous ceux qui nous ont écoutés, qui amène les jurés probablement à la condamner plus qu'ils ne l'auraient fait pour un coup de revolver.
Oui. En sachant effectivement que rétrospectivement l'idée de cette conscience tout à coup filmée à l'époque en direct puis rediffusée, que la mort est au sol, c'est manifestement quelque chose qui a dû marquer très fort les jurés. Il faut savoir qu'en Belgique, une grosse différence par rapport à la France, c'est que les jurés décident tout seuls, donc ils sont 12. Depuis quelques années, les magistrats sont présents, mais ne sont que des soutiens logistiques. Et donc, il faut qu'il y ait plus de 7 jurés sur 12 pour qu'il y ait culpabilité.
Vous voulez dire qu'en France, les présidents de cours d'assises influenceraient les jurés?
Ça, j'en suis convaincu.
Oui, moi aussi. Mais en revanche, vous avez noté qu'en appel, pour le coup, au moment des cours d'assises d'appel, le président et ses assesseurs ne participent pas au vote. Alors là, pour le coup, on est en appel comme en Belgique.
Oui, vous avez un avantage énorme par rapport à chez nous, c'est que vous avez un droit d'appel qui n'existe pas en Belgique.
Pas du tout.
Pas du tout. Donc il reste une perspective, mais très très limitée, c'est la cassation.
Oui.
J'en ai déjà eu, où j'ai eu des perpétuités qui sont devenues 10 ans, donc ça prouve que c'est une forme d'appel indirect, mais il faut un vice de procédure, sinon ça marche pas.
Et ça marche rarement. Les experts psychiatres, ils disent qu'elle est incapable, Els Klotmans, de ressentir des sentiments pour les autres. On n'est pas loin d'une psychopathe, alors.
Oui, c'est effectivement c'est le type de délinquance le plus compliqué à traiter, puisque les experts psychiatres se disent eux-mêmes totalement incapables de soigner des psychopathes, comme ils pourraient soigner des schizophrènes ou d'autres pathologies. Et donc c'est cette absence d'empathie totale est quelque chose de problématique, parce que ça joue bien évidemment sur le risque de récidive. Ici, c'est tellement particulier que, à mon avis, ce risque est totalement nul.
Alors j'ai été très surpris d'apprendre qu'en Belgique on a recours au détecteur de mensonges.
Oui, donc c'est en fait une arme facultative, donc c'est une suggestion ou une proposition du juge ou parfois des gens qui sont suspectés, des accusés, etc. C'est une influence en fait du droit canadien. Au début d'ailleurs, quand on a commencé à utiliser des détecteurs de mensonges, et la plupart du temps les présidents de cour d'assises disent que c'est un élément d'indication, mais on ne peut pas condamner ou acquitter sur cette base-là, on avait besoin d'un technicien qui venait spécialement du Québec, parce que nous n'avions personne qui était capable de décrypter et de faire fonctionner ce détecteur.
C'est utilisé couramment?
C'est utilisé souvent. Je dirais que moi, dans ma culture, je m'y oppose. Parce que je crois qu'il y a tellement d'autres raisons de mentir que de falsifier la vérité. Je trouve ça très dangereux.
Donc, vous êtes sur la même ligne que l'avocat qui dit, comme ce n'est pas une preuve qui est vraiment retenue devant le tribunal, alors faisons-en l'économie.
Oui, tout à fait. Je crois que, bon, ici, bien évidemment, avec deux autres coupables potentiels, c'est très dur, avec deux détecteurs qui sont totalement négatifs quant à une culpabilité, et quelqu'un qui refuse d'y participer, ça pèse très lourd, même si ça ne devait pas peser lourd en soi.
Le détecteur de mensonges, qui est-ce qu'il manipule alors si c'est plus les Québécois?
On a formé quelques policiers, techniciens, spécialisés en la matière. Et donc c'est assez étrange parce qu'au départ on vous pose des questions de test sans grand intérêt sur le nom de vos grands-parents, des machins comme ça, et alors on rentre tout doucement dans le vif du sujet, donc c'est pas un clash direct entre êtes-vous coupable ou non.
Est-ce que c'est fiable, à votre avis?
Moi j'y crois pas. Et vous avez beaucoup d'études, il y a eu beaucoup d'études américaines, ça s'est utilisé même dans le monde du travail pour sélectionner des cadres fiables ou non, et il y a eu beaucoup de cas d'erreurs judiciaires qui auraient pu se faire sur base d'un simple jugement du détecteur de mensonges.
C'est étonnant hein, que la France y soit jamais passée.
Oui, c'est peut-être pas plus mal. Hein.
À votre avis, c'est pas plus mal?
Moi, à mon avis, c'est pas plus mal.
Je vous remercie infiniment, Maître Pierre Chaumet du barreau de Bruxelles, d'avoir accepté de commenter cette incroyable histoire. Je voudrais ici vous supplier de bien vouloir nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes mou du genou à nous follower sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors allez-y, on a des comptes, on de la traconte partout. Et c'est notre équipe qui gère ce compte. Moi, je ne gère que mes comptes à moi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.